La marche du monde.
On ne tire pas sur une ambulance. Vous connaissez la formule, mais peut-être pas son auteur. Françoise Giroud, cofondatrice du journal féminin Elle et du premier news magazine français L'Express. Nous revisitons son destin exceptionnel avec Jacques Duquesne. Il publie les meilleurs éditos de son ancienne patronne.
J'ai choisi le métier de journaliste parce que j'aime comprendre vite et faire comprendre vite.
La voix de Françoise Giroud, surnommée La Panthère par Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle a 37 ans lorsqu'elle s'associe à JJSS pour fonder l'Express, dont le premier numéro sort le 16 mai 53. Sa marque de fabrique, la plume de Françoise Giroud.
C'est une règle très simple que je tente d'imposer à mes collaborateurs. Je leur dis, commencez comme vous voulez, mais ça ne vous sert à rien d'avoir du talent à la sixième ligne.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Alors merci Jacques Duquesne d'accueillir RFI chez vous dans le 5e arrondissement, au milieu de vos livres. Beaucoup de bibliothèques couvrent les murs de votre bureau. Vous avez choisi de publier une sélection d'éditos de Françoise Giroud et vous écrivez que c'est une archive essentielle pour qui veut comprendre la seconde moitié du XXe siècle. Pour quelle raison ?
Oui, parce qu'elle raconte à sa manière, bien sûr, dans ses éditos, elle réagit à sa manière sur tous les événements du XXe siècle. Et elle était à la fois militante et journaliste. Il faut bien voir qu'elle a commencé sa carrière de journaliste après avoir fait un peu de cinéma. Elle était, pendant l'occupation...
Script girl.
Ouais, script girl est un peu bonne à tout faire, vous savez, pendant l'occupation, dans le cinéma français, qui était un cinéma obligatoirement limité dans ses activités. Elle a écrit une chanson à l'époque, personne ne parle jamais de ça, qui s'appelait Le Petit Chaperon Rouge, mais une chanson qui a aidé à la libération, a été un succès formidable.
On a retrouvé également dans nos archives RFI une chanson qui s'intitule Quand Betty fait boop. Ça vous dit quelque chose ?
Non, moi je connaissais Le Petit Chaperon Rouge. Il m'est arrivé de le chanter, d'ailleurs, je serais même capable de vous le chanter.
Dites-moi.
Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois, quand soudain une ombre bouge, c'est un loup, un grand loup à l'air sournois. Tiens, dit-il en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid, tire la chevillette, et puis voilà, bon...
Elle est multicarte, Françoise Giroud. Elle a donc écrit l'écriture, c'est son grand truc, et sous toutes ses formes.
Oui, mais c'était un travail considérable. Par exemple, les éditos, moi j'avais un petit bureau en face d'elle, qui avait quand même un grand bureau quand je suis arrivé là. Elle écrivait donc le jeudi après-midi, elle écrivait son édito. Elle arrivait assez tard en général, elle arrivait vers midi, je ne sais pas de quoi elle déjeunait. C'est pas la personne qui allait dans des dîners... Vous savez ce qu'on voit actuellement dans les magazines, les photos. Mais elle allait plutôt dans les dîners en ville, chez des éditeurs, des hommes politiques, des gens de ce genre. On est 15, 20, pas plus. Mais elle arrivait tard, donc. Et là, elle s'y mettait à son édito, auquel elle avait réfléchi auparavant, évidemment. Mais ça pouvait pas durer des heures et des heures. Et on entendait, elle tapait ça à la machine à écrire. Et vous savez, c'est des machines à écrire avec un chariot qui avance. On entendait ce chariot. Tout d'un coup, le chariot s'arrêtait. Et ça y est, elle jette son papier. Et elle jetait son papier parce qu'elle n'était pas contente. Et elle mettait une nouvelle feuille. Quand on rentrait dans son bureau le soir, par hasard, ou pour une question quelconque, parce qu'elle a envie de vous voir ou de vous demander un avis quelconque, on voyait qu'à terre, comme ça... Elle avait froissé des papiers, elle les jetait à terre. Elle avait un désir de perfection terrifiant. Enfin, la vie que devait mener cette dame à l'intérieur d'elle-même, dans sa tête, alors qu'elle avait dû réfléchir à ses formules avant de venir au journal.
Jacques Duquesne, L'Express, c'est l'enfant de Françoise Giroud et de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Comment se sont-ils rencontrés ?
Ils se sont rencontrés dans un dîner en ville, justement, chez Julliard, qui était un grand éditeur de l'époque, un peu oublié maintenant, malheureusement. Enfin, les éditions Julliard existent toujours, mais ils se sont rencontrés là, comme ça, dans ce dîner. Lui était avec son épouse, Madeleine Chapsal. et elle était toute seule. Et alors j'ai deux versions là, j'ai la version Jean-Jacques et la version Françoise. La version Françoise, c'est qu'elle sort, elle prend sa voiture et elle prend le boulevard Saint-Germain. Le boulevard Saint-Germain était à l'époque à double sens, maintenant il est à sens unique, et à l'époque il était à double sens, elle part, et lui la double à gauche, en contresens complet, pour passer devant elle, pour montrer qu'elle l'intéressait, mais que c'était lui le patron. Alors elle le redouble à gauche aussi, après il tourne à gauche, je ne sais où, pour arriver sur les quais de Seine. La version Jean-Jacques, c'est lui qui la bloque, version Françoise, c'est elle qui le bloque. Ils arrêtent les voitures et ils se disent, faut qu'on se revoie. Madame Chapsal était quand même dans la voiture Jean-Jacques, n'est-ce pas? Bon, et ils se revoient et c'est ainsi que tout commence là. Et il l'invite à venir écouter Manès France, qui à ce moment-là faisait un discours qui fut un discours très, très important, puisqu'il était consacré à la guerre au Vietnam et il était candidat à être Premier ministre, président du Conseil, comme on disait à l'époque. Et il n'a pas été investi cette fois-là. L'homme qui l'a séduite vraiment, sur le plan politique, c'était Manès France.
L'Express a toujours eu une ligne parfaitement cohérente qui était le soutien de la politique de Madès France, de la ligne politique de Madès France. Le soutien et à l'époque le souci de mettre cette politique au pouvoir. Sinon l'homme, au moins la politique. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que c'était que la politique de Madès France? C'était avant tout le redressement économique, puisqu'il considérait, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de politique étrangère, il n'y avait pas de politique tout court sans redressement économique. C'est toujours valable. Mais ça l'était tout particulièrement à l'époque. La France n'investissait pas du tout. On était empêtré dans la guerre d'Indochine. Ce qu'il y avait de saisissant dans cette interview, si je me souviens bien, c'est qu'il parlait des investissements qu'il fallait faire en Afrique. C'était une Afrique qui était encore colonisée.
Étonnant, Jacques Duquesne. Vous retrouvez donc la voix de François Giroux qui raconte le premier numéro de l'Express dédié à Mendès France. C'est un journal, c'est un organe de communication politique, ce journal.
Ce journal était fait pour soutenir Mendès France. Ce qu'il y a, c'est qu'avant de faire ce journal, donc en 1953, elle écrivait à Elle, elle était rédactrice en chef de Elle, et elle faisait des articles dans un journal qui s'appelle France Dimanche. Et elle a fait un portrait élogieux de Pierre Mendès France. Ça a été vraiment l'homme de sa vie sur le plan politique. L'homme de sa vie sur le plan amoureux, ça a été Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et l'homme de sa vie sur le plan politique, l'homme qu'elle a vraiment admiré toute sa vie, c'était Pierre Mendès France. C'était sa règle morale. C'était la morale de Mendès France qui l'avait séduite. La morale en politique, ce qui était très important pour elle.
Mendès France avait un intérêt pour le continent noir et qui demande des investissements en Afrique alors que c'est encore une colonie.
Tout à fait, parce qu'il sentait qu'il y avait un avenir qui se jouait là. Et puis, comme c'était un homme moral, il trouvait que c'était pas convenable, après tout, ce qui se passait là. Que beaucoup d'Africains s'étaient fait tuer pour la libération de la France, qu'on avait un devoir envers ces gens-là. Et Françoise aussi, moralement, elle avait cette admiration aussi. Toutes les raisons qu'avait Mendès France politiquement, elle adhérait à ses raisons. Jean-Jacques, lui, était plus tourné vers l'Amérique, etc. C'était beaucoup moins son problème. Et il trouvait que la France était empêtrée dans la guerre d'Indochine, empêtrée dans les problèmes de la décolonisation. Il fallait s'en débarrasser. Et c'était moins un problème moral pour lui que pour Mendès France et Françoise.
Vous savez, je crois qu'en matière de presse, on ne réussit que les journaux qu'on lirait si on faisait un autre métier, qui corresponde à vos besoins, à vous. Si on est une concierge, on fait un bon journal pour les concierges. Si on est un snob, on fait un bon journal pour les snobs. Mais on ne peut pas être un snob qui fait un journal pour les concierges et inversement.
Vous écoutez RFI.
Donc, nous avons fait le journal dont nous avions besoin, nous.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Jacques Duquesne, vous arrivez à l'Express pour faire de la réécriture à la demande donc de Françoise Giroux, un petit bureau, une petite équipe, et puis bientôt des grands noms, Sartre, Malraux, Camus et puis Mauriac. Pourquoi les écrivains répondent-ils présents ?
Ben parce que cette équipe était une équipe de jeunes, faut voir, où les gens discutaient autour d'un bureau, etc. Où on mangeait très mal, parce que avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, on mangeait très mal, c'était clair, un repas frugal comme ça autour d'une table. On sentait qu'il y avait là un cœur de la France moderne, enfin d'une nouvelle génération, qui avait espéré après la libération une France plus moderne, épurée de toutes les scories de la Troisième République, etc., qui bâtirait quelque chose de neuf et tout cela, et qui retombait dans les ornières du passé avec la guerre d'Indochine, avec les vieilles querelles économiques et tout cela. Et donc, l'Express représentait cela, une aspiration des jeunes. Et c'est pour ça que des gens comme Camus sentaient cela, que Sartre sentait cela, ils n'étaient pas de la même orientation, que Mauriac sentait cela.
Alors Mauriac, c'est surprenant. Alors lui, pour le coup, il n'a pas le profil.
Il n'avait pas le profil, mais...
Rappelons que Mauriac, donc, c'est ce grand écrivain français, catholique.
Mais alors Mauriac...
Conservateur, tout de même.
Conservateur, mais pas sur le problème colonial. Dès l'insurrection algérienne, en novembre 1954, le premier article qui soit paru dans la presse française disant « Attention, la police a torturé », et c'était Mauriac dans l'Express.
Alors Mauriac est venu le premier parce qu'il écrivait dans le Figaro, il y a eu des drames au Maroc, il a pris parti pour les Marocains, ou plutôt contre le gouvernement français dans cette affaire. Les lecteurs n'étaient pas contents du tout, Brisson n'était pas content non plus, on a voulu le censurer, il a refusé de continuer à écrire dans le Figaro, et on lui a proposé l'Express, où il est venu tout de suite. Alors c'était le premier de la série, il est venu tout à fait au début.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tifelfel, au cours duquel son mari fut tué.
Est-ce que vous avez une opinion sur ce que sont ces rebelles, ces Fellahs?
Eh bien, oui, d'après ce que les gens du pays qui commencent à parler maintenant, il y aurait des éléments étrangers, tunisiens et on dit même égyptiens, mais il y a aussi des gens du pays qui ont été enrôlés de gré ou de force.
Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli.
2 novembre 1954.
Les mots de François Mauriac, lus par Henri Virlogeux.
La guerre d'Algérie commence. Je ne croyais pas que le pire fût si proche. Ceux qui, en Algérie, sont passés à l'attaque ne pouvaient douter de ce que serait la réponse du gouvernement français, puisqu'il ne dépend plus de personne, aujourd'hui, que l'Algérie ne fasse légalement partie du territoire de la République. Qu'on n'attende pas de moi que je reproche à des hommes, fussent-ils ministres, d'avoir fait ce qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire, sans trahir les devoirs de leur charge. Mais que j'en sois accablé, mes amis le savent. La responsabilité des Fellahs dans l'immédiat n'atténue en rien celle qui, depuis 120 ans, pèse sur nous d'un poids accru de génération en génération. L'horreur de ce qui va se déchaîner doit être tout de suite adoucie par une offensive concertée contre les bas salaires, le chômage, l'ignorance, la misère, et par les réformes de structure qu'appelle le peuple algérien. Et coûte que coûte, il faut empêcher la police de torturer.
Le mot est lâché, vous l'aviez dit, Jacques Duquesne. On est en 54, et c'est Mauriac qui écrit ça.
Tout de suite, le premier, oui, le premier. Mais parce qu'il avait l'expérience marocaine, et donc il savait que... ça serait comme cela, et que c'était déjà comme cela que la police en Algérie avait toujours eu l'habitude de torturer. Et d'ailleurs, la police en Algérie, immédiatement, a arrêté des gens, des Algériens nationalistes, qui n'étaient pas les bons. Elle n'a pas arrêté ceux qui avaient déclenché l'insurrection, elle a arrêté des gens du MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, qui n'étaient pas ceux qui avaient déclenché l'insurrection. Et donc, elle a fabriqué là des insurgés, de nouveaux insurgés en torturant. C'était classique, ça, comme hélas. Et Mauriac, donc, tout de suite, comme avec le Figaro, il a eu quelques nouveaux incidents, etc. Il a écrit dans l'Express régulièrement. Et là, en 1954, donc à cette époque-là, Mendès-France était arrivé au pouvoir déjà. Il avait fait la paix en Indochine. Il était au pouvoir depuis mai-juin 54.
Dans le journal de François Giroud et de Jean-Jacques Chavanche-Trébert, donc l'Express, on peut à la fois soutenir Mendès, donc soutenir le gouvernement, et critiquer l'attitude de l'armée en Algérie et dénoncer la torture.
Absolument, oui. Vous savez, ils étaient parfois pas très gentils avec Mendès-France parce que c'était la 4ème République, c'était un gouvernement de coalition, comme on dirait, et donc il y avait des ministres qui n'étaient pas très réformateurs. Et donc, je me souviens d'un numéro du début décembre 1954, où il y avait une photo de Mendès, pas très gentil, qui dormait un peu, enfin qui semblait un peu assoupi. Et je crois que le titre, c'était « On s'assoupit », justement, parce que Jean-Jacques, qui était comme ça très réformateur, voulait des réformes économiques. Lui, il est très, très intéressé par les réformes économiques et trouvait que ça n'allait pas assez vite dans ce sens-là. Mais malheureusement, Mendès-France n'est pas resté au pouvoir très longtemps. Là, il a été mis en minorité par les ultras d'Alger. Et donc, Mendès a été mis en minorité, remplacé par Edgar Faure, qui était son ancien ministre des Finances. Bref. Ça, c'était la 4ème République avec tous ses drames, mon Dieu, et ses combines.
Jacques Duquesne, vous nous avez chanté tout à l'heure Le Petit Chaperon Rouge, écrit par François Giroud. Alors avant de retrouver les infos sur RFI, je ne résiste pas à vous faire partager un autre monument de la chanson française, signé François Giroud et Loulou Gastet. Le titre, Quand Betty fait boop, interprété par Josette Daïdé dans le film Le Roi des Resquilleurs, nous sommes en 1945.
Quand Betty fait boop, et quand Popeye fait pas, et quand Millet fait miaou, je ne sais pas pourquoi tout ça me fait autant d'effet que ça. Quand j'eus 18 ans, je connus un beau jour un jeune homme charmant qui, pour me faire la cour, m'offrit une loge à l'opéra. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas, emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi au cinéma. Quand Betty fait boop, et quand Popeye fait pas, et quand Mickey fait miaou, ça me traverse par-ci, par-là, ça monte ici, ça descend, ça me prend là. Quand Betty fait boop, et quand Popeye fait pas, et quand Mickey fait miaou, je ne sais pas pourquoi tout ça me fait autant d'effet que ça. Il s'est approché aux actualités, il m'a embrassé au dessin animé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, oh, dans ma tête tout s'est embrouillé. Et ce soir-là, et ce soir-là, et ce soir-là au cinéma, Popeye a fait boum, Mickey a fait paille, Betty a fait miaou. Je les ai vus la tête en bas, ça montait ici, ça descendait par là. Popeye a fait boum, Mickey a fait paille, Betty a fait miaou. Je ne sais pas pourquoi tout ça m'a fait autant d'effet que ça. Depuis, c'est lui, c'est lui qui dit tous les soirs, allons au cinéma. Quand Betty fait boum, et quand Popeye fait pas, et quand Mickey fait miaou. Je ne sais pas pourquoi tout ça, non, je ne sais pas pourquoi tout ça.
L'atelier des médias. La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde sur RFI, au son de nos archives sonores, nous suivons l'itinéraire d'une des plus grandes figures de la presse française de l'après-guerre, Françoise Giroud.
Le pourquoi j'ai fait du journalisme, parce que ça se passait tout de suite après la guerre. Je n'avais aucune raison d'aller faire ce métier. Je gagnais beaucoup d'argent dans le cinéma. J'y avais un bon nom. Je n'aurais certainement pas débuté à ce moment-là comme une jeune journaliste. Pourquoi ? Il se trouve qu'il y a eu la guerre. Il se trouve que tout a été bouleversé, qu'il n'y avait plus un journaliste à Paris puisqu'ils avaient tous plus ou moins collaboré. Et qu'au moment de faire un journal, on m'a proposé d'y entrer comme directrice, ce qui est incroyable, comme directrice de la rédaction. Tout ça, ce sont des conditions objectives.
La voix de Françoise Giroud dans La Marche du Monde, hein. Plume engagée, Françoise Giroud, c'est ce que vous écrivez, Jacques Duquesne, en titre de cette publication sur les éditos de Françoise Giroud que vous avez sélectionné. Jacques Duquesne, Françoise Giroud, c'est une journaliste révolutionnaire, en tout cas ce sont les mots qu'elle emploie pour qualifier la création du journal féminin Elle. Vous êtes d'accord ?
Elle s'adressait à une génération de femmes qui avait pris le pouvoir un peu pendant l'occupation, puisque beaucoup d'hommes étaient prisonniers en Allemagne. Beaucoup de femmes avaient participé par ailleurs à la résistance. Les femmes avaient acquis le droit de vote. Et Françoise Giroud, par exemple, expliquait aux femmes qu'il fallait aller voter. Parce que des femmes disaient qu'elles ne savaient pas très bien la politique, etc., etc. Eh ben, elle devait demander à leur mari, mais qu'ensuite, disait-elle dans son article, vous n'êtes pas obligé de voter comme votre mari vous le dit. De toute façon, vous serez dans l'isoloir et il verra pas ce que vous mettez, le bulletin que vous mettrez dans l'enveloppe.
Franchement, Jacques Duquesne, à l'époque, lorsque vous arrivez à l'Express et que vous êtes engagé par une femme et qu'en face de vous, le patron, c'est une femme, comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vos collègues vous disent, franchement?
Ben, c'est pas une question que je me suis posée à aucun moment. C'est votre question qui me surprend. Voyez-vous? Oui, parce que, bon, c'était pas un problème. Bon, je travaillais aussi dans l'édition avec Françoise Verny, par exemple, chez Grasset, qui était un personnage aussi qui avait de l'allure et du pouvoir. Donc, bon, il y avait quand même une génération de femmes qui était assez importante. Et Giroud, c'était la patronne. Il faut bien voir que pendant la guerre d'Algérie, c'est elle, quand Jean-Jacques Savant-Schreiber avait été rappelé en Algérie pour faire, comme d'autres jeunes Français ont été rappelés en Algérie, elle a dirigé le journal toute seule. Et je me souviens qu'il existe une lettre de Mauriac à Jean-Jacques Savant-Schreiber. Et il lui écrit « En Algérie, notre petite patronne se débrouille très bien ».
Françoise Giroud, donc la petite patronne, ne doute pas de sa compétence.
J'ai horreur de la fausse modestie. Je veux dire, je crois que je suis quelqu'un de capable et de compétent dans mon métier. Je crois que d'autres femmes seraient capables d'être compétentes dans ce métier. Mais qu'il y a, dans la vie, à certains moments, un certain nombre de choix. Et que si les femmes ne sont pas en situation de faire ses choix, elles ne peuvent pas atteindre à des situations véritablement importantes.
Mais cette situation, vous l'avez voulu ?
Non. Enfin, je ne me suis jamais dit « Ah, il faut que je sois directrice d'un journal », alors ça, vraiment jamais.
Oui, mais une femme, pour atteindre à ce niveau de situation, doit le vouloir, dans tous les domaines.
Certainement, mais je crois que les femmes sont au moins autant que les hommes capables de vouloir quelque chose et de le réussir. Mais encore faut-il avoir le terrain d'application.
Alors Françoise Giroud, elle a elle-même formé de grandes journalistes politiques comme Catherine Ney ou encore Michel Cotta. Comment cela se passait-il entre elles ?
Elles étaient trois en réalité. Il y avait Catherine Ney, Cotta et Irène Allier. Irène Allier qui venait de France Soir, qui était la plus âgée des trois. Alors on en parle souvent beaucoup moins parce qu'elle avait moins l'allure un peu libérée, etc., des deux autres, Cotta et surtout Catherine. Catherine, qui est une grande copine à moi, qui alors, elle, bon, c'était la plus jeune, elle venait du Nouveau Candide, qui était un hebdomadaire, qui avait à moitié réussi, et Catherine ne doutait de rien.
Elle n'était pas candide, elle, au contraire. Hein.
Non, et elle ne doutait de rien, et partait à l'assaut du Palais Bourbon, elle toute seule, je dis le Palais Bourbon, puisque l'Assemblée nationale avait encore beaucoup de pouvoir à l'époque, on n'était pas encore sous la Ve République. Elles s'entendaient très bien, c'était ses filles, ses trois filles, voilà.
Alors, comme ses filles à l'époque, on va écouter tout de suite les leçons de journalisme de Françoise Giroud.
Le problème n'est pas de tirer à la ligne, n'est-ce pas? C'est de mettre ce qu'on appelle une information par ligne, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas. Mais enfin, alors recueillir l'information et la vérifier signifie qu'on emploie beaucoup de monde et qu'on emploie des journalistes de grande qualité à qui on peut faire confiance. Non seulement parce qu'ils ont des scrupules, mais parce qu'ils savent vérifier quelque chose. Or, vous savez que le drame des journalistes qui ne sont pas très bons et très expérimentés, c'est qu'ils se laissent duper. Ce n'est pas qu'ils mentent. C'est pas grave, un journaliste qui ment, ça se voit assez vite. Ce qui est grave, c'est quand il est victime, dupe de celui qui lui parle, ou qui se laisse impressionner par un ministre. Prenez un garçon de 25 ans, vous l'envoyez chez un ministre, mais il y part en se disant, cet abominable salaud qui que, il revient, on lui offre un whisky dans un grand salon, il a vu un ministre très aimable, c'est fini. Un bon journaliste est quelqu'un qui est à la fois enthousiaste et sceptique.
On parle toujours de journalisme, j'ai l'impression que le journalisme, c'est un métier qui ne s'apprend pas.
Oh, je ne suis pas de votre avis. Je ne suis pas de votre avis. Je trouve qu'au contraire, c'est un vrai métier. On est plus ou moins doué. On n'apprend pas le talent. Ça, c'est autre chose. Le talent d'écriture, à proprement parler, ne s'enseigne pas. Mais on peut être un très bon journaliste sans avoir du talent. Et je dirais même, on peut être un très bon rédacteur en chef et un très bon directeur de journal sans savoir écrire ou en écrivant médiocrement. Ce sont deux métiers différents.
Vous tenez beaucoup aux papiers qui sont léchés ou aux papiers, au contraire, qui donnent des informations.
Ah non, l'information d'abord, bien entendu. Je veux dire, je peux lire un papier plein d'informations et mal écrit, mais je ne peux pas. Je lis sans grand intérêt un papier bien écrit sans information. Ou alors, il faut être Monsieur Mauriac, c'est une autre question. Bon, il y a des grands écrivains. Ce sont des grands écrivains qui écrivent dans un journal. Ce ne sont pas des journalistes.
Leçon de journalisme, c'est une archive de l'INA, et c'était bien sûr la voix de Jacques Chancel. Je vous vois jubiler en écoutant cette archive, Jacques Duquel.
Oui, oui.
Ça vous rappelle des souvenirs?
Ça me rappelle des souvenirs parce que, justement, on menait des enquêtes à l'Express terribles, terribles pour avoir la réalité de l'information. Mais ensuite, il fallait écrire l'information. Il y avait un travail d'équipe considérable. Et les gens qui ramenaient l'information devaient accepter que des gens comme moi, les writers, les écrivains, en quelque sorte, repassent à la moulinette leurs articles, les remettent cul par-dessus tête, comme on disait, c'est-à-dire ce qu'ils mettaient en conclusion, on pouvait le mettre au début, n'importe. Et tous n'acceptaient pas facilement quand on a mis ça en place, ce système.
On s'engueulait beaucoup à l'Express?
Non, pas tellement, parce qu'il y avait une ambiance. Enfin, quand je suis arrivé, moi, peut-être qu'au départ, il est possible qu'il y ait eu des engueulades.
Vous ne réécriviez pas les auteurs, les écrivains, comme Mauriac, ou si?
Ah non, pas du tout, non. Mais ou bien, je me souviens, j'ai oublié le nom du journaliste scientifique que je faisais souffrir. Je voyais bien qu'elle souffrait mille morts quand je réécrivais ses articles. Je lui faisais relire, bien sûr, parce que je ne voulais pas écrire des bêtises, moi, sur le plan scientifique, mais enfin, je lui faisais relire, relire, etc. Et il y en avait d'autres aussi qui venaient me voir avant d'écrire quoi que ce soit, qui me disaient « voilà ce que je voudrais écrire ». Alors, on travaille ensemble.
C'était plus simple, c'est plus rapide. Dites-moi, Jacques Duquel, est-ce que la patronne qui passait des heures et des heures sur ses éditos, dont vous entendiez justement le bruit de la machine à écrire, est-ce qu'elle vous a déjà demandé de la relire? Est-ce qu'elle vous a déjà demandé de la réécrire?
Jamais, jamais, jamais. En revanche, ce qui lui est arrivé, et j'ai rarement vu ça dans nulle part, c'est des nuits comme ça, vers 2-3 heures du matin, où il n'y avait plus qu'elle et moi pratiquement, ou un ou deux autres qui traînassaient, de me dire « Jacques, je ne suis pas sûr qu'on ait fait un bon journal ». Et on redescendait au secrétariat de rédaction, à l'étage en dessous, il y avait là des gens de la maquette, des qui refaisaient où, le secrétariat de rédaction, qui faisait les titres et tout ça. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'elle avait raison. Et il suffisait de changer parfois le début, les trois lignes d'un article, du début d'un article, changer un titre, la légende d'une photo, pour donner une autre gueule au journal. Moi, je râlais à 3h du matin, j'avais un peu envie d'aller me coucher en général, bon. Mais je lui donnais raison chaque fois, parce que je me disais, cette garce, elle a raison.
Et c'est pour ça qu'elle se vantait que l'Express était un newsmag, donc c'était nouveau en France, un magazine d'information novateur.
Je m'excuse de répéter quelque chose que j'ai écrit, mais je crois que ce qui a distingué l'Express des autres journaux, c'est qu'au lieu de montrer ce qu'on appelle le dessous des cartes, et qu'on ne montre jamais d'ailleurs, on allèche les lecteurs avec ça, en vérité ils ne savent rien. Mais on leur dit, on va vous raconter le dessous des cartes. Eh bien le dessous des cartes ne m'intéresse pas, c'est du ragot. Ce qui m'intéresse, ce sont les cartes. Et je pense que les Français ont été, et restent, mais ont été, surtout le peuple le plus mal informé de la Terre, parmi les peuples développés bien entendu, parmi les nations industrielles, le plus mal informé sur lui-même. Et je ne demande pas qu'on soit de mon avis, je pense que tous les lecteurs, tous les électeurs, tous les citoyens ont le droit de former leur avis, mais à partir de la réalité, et non pas à partir de l'idée qu'ils se font de quelque chose. Donc montrer les cartes, c'est ça la vocation de l'Express.
Et alors dans votre livre, Jacques Ducasne, les éditos, le choix des éditos que vous avez fait de François Giroux, une plume engagée à l'Express, c'est le titre du livre. Alors Giroux écrit, en France, où dans ces années 50, un haut fonctionnaire ne reçoit pas un journaliste, un universitaire nuit à sa carrière en signant dans un journal, un économiste est hermétique comme un philosophe, un chef d'entreprise ne communique pas son chiffre d'affaires. En France, où l'on vit sous le règne du secret, donc de son double immonde, le ragot, grâce à quoi on donne au lecteur l'illusion de connaître le dessous des cartes. Elle dénonce cette presse française où finalement rien ne se dit, elle dénonce cette société française où on ne fait pas confiance à la presse et où personne n'accepte de donner ses infos aux journalistes.
Oui, bien sûr, elle avait raison. C'était la presse de l'époque où rien n'était donné aux journalistes. Et alors, les journalistes tiraient des petites choses et essayaient de dire « Mais nous, on vous raconte la vérité. » Ils racontaient que des ragots ou des petites choses, c'est vrai. Mais maintenant, les journalistes sont aux prises avec ce qu'on appelle les communicants, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les universités, etc., ont tous des systèmes de communication et disent beaucoup de choses, mais disent que ce qu'ils veulent bien dire aussi. Et les journalistes souvent se laissent faire par les communicants. La communication prime presque sur l'information, et je voudrais moi que l'information maintenant se débatte contre la communication, mais c'est un autre problème nouveau. À l'époque, c'était le contraire, il n'y avait pas de communicants. Et l'information, il fallait aller la chercher avec les dents, et c'était difficile. Et à l'Express, je me souviens, quand on décidait de faire ce qu'on appelait la cover story, c'est-à-dire l'article qui faisait la couverture. Je prends un sujet au hasard, parce que, bon, il me passe par la tête, les prisons, par exemple. C'était quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à Françoise de dénoncer la situation des prisons. On enquêtait d'abord avec nos correspondants régionaux, avec nos spécialistes ici à Paris. On enquêtait près de l'administration, on enquêtait près des familles de détenus, près des aumôniers militaires, des aumôniers de prison, près des médecins de prisonniers, etc. On enquêtait avec les correspondants à l'étranger. On donnait ça à une personne qui écrivait. Puis à Jacques Ducasne ou un autre writer qui réécrivait l'article. Il y avait aussi le service de documentation qui avait relevé tout ce qui s'était passé dans les prisons depuis les années précédentes, etc. Donc on avait une masse d'informations dont on tirait finalement un article de 6 ou 7 pages qui avait été revu, relu, etc. Donc il y avait un travail considérable de toute une équipe. Et je crois que c'est ce qui faisait la qualité du journal, et aussi le prix de revient très cher de ce journal, parce que ça supposait, tous ces gens que je viens de vous citer, ils étaient payés bien sûr pour ça. Mais ça permettait à ce journal d'être d'une qualité supérieure, bien sûr.
La marche du monde sur RFI.
L'Express est le premier journal français qui a parlé régulièrement d'économie. Quand il est sorti, imaginez qu'il n'y avait pas de rubrique économique dans le monde. Il y avait une rubrique financière, il n'y avait pas de rubrique économique. Et la partie économique a été extrêmement substantielle parce que le principe même de l'Express avait été de composer des groupes de très bons spécialistes sur les 2 ou 3 ou 4 grands sujets que nous voulions aborder. Et nous avions avec nous tous les gens qui composaient la Commission des comptes de la Nation. C'est eux qui traitaient des problèmes économiques et c'est moi qui les réécrivais.
il m'expliquait ce qu'il voulait dire, mais comme il ne savait pas écrire clairement, c'est moi qui écrivais. Après quoi, il corrigeait ce que j'avais écrit. Et c'est comme ça que j'ai appris l'économie.
On voit bien, Jacques Duquesne, la méthode express. Hein, vous venez juste de l'exposer.
Oui, mais c'est tout à fait cela. Et il y a même eu une époque dont elle ne parle pas, là, au tout début de l'express, où il y avait au centre, c'est dans la première année de l'Express, où il y avait une double page en bande dessinée pour expliquer les problèmes économiques, avec des petits dessins, avec des légendes, comme ça. Mais ça n'a pas duré, ça.
Et François Giroux, Jacques Duquesne, a son secret pour réussir son article.
L'habitude de la construction dramatique a fait que je construis mes articles comme un scénario. C'est-à-dire que j'ai appris à écrire de façon qu'on ne puisse pas couper. Ce qui doit être le cas dans une construction dramatique où il doit tout le temps se passer quelque chose. Autrement dit, je sais construire des articles parce que je n'ai pas de formation universitaire. J'ai le contraire de la formation universitaire qui consiste à dire thèse, antithèse, synthèse. Moi, je ne sais pas faire ça. Mais je sais faire quelque chose où on attaque directement et où l'action ne cesse d'avancer. Dans un article, il faut accrocher tout de suite. Il y a un très grand journaliste anglais, Bibobo, qui disait qu'il faut mettre les meilleures fraises au-dessus du panier.
Les meilleures fraises au-dessus du panier, moi j'aime beaucoup cette expression. Et je profite justement que vous publiez les éditos de François Giroux pour donner un petit exemple, un petit extrait goûteux à nos auditeurs. Alors c'est un éditorial qui date du 15 mai 1972. François Giroux revient quelques années après sur l'engagement américain au Vietnam. Que sont-ils allés faire en Indochine, les Américains ? À l'origine, une lettre, une simple lettre, écrite en 1954. Cette année-là, le gouvernement français, Laniel, Bideau, Pleven, demande aux États-Unis des bombardiers atomiques pour mettre les Viet à la raison. Eisenhower, président des États-Unis, dit non, non. Contre l'avis de l'amiral Radford, contre l'avis de son vice-président Richard Nixon, et bien qu'il soit persuadé, il le dit à Churchill, sceptique, que si l'Indochine passe entre les mains des communistes, les conséquences ultimes en seront probablement désastreuses. On voit bien l'attaque du papier à la mitraillette.
Absolument. Moi, je prends souvent une comparaison. C'est quand vous êtes assis dans un train à côté de quelqu'un qui lit votre journal. Et vous voyez, il tourne les pages, vous dites, zut, il tourne ses pages. Le titre était pas mal, hein, on avait travaillé sur ce titre, et sur cette photo-là, il pourrait s'arrêter, ce bourre. Puis tout d'un coup, il commence, là, et vous voyez que ça se joue sur les 4 ou 5 premières lignes. Et vous dites, tiens, il faut qu'il s'accroche, là. Et s'il accroche, ça va. Et il faut qu'elles soient courtes, ces 4 ou 5 premières lignes, et que tout de suite, ce soit un paragraphe, là, que ça s'arrête tout de suite après ces 4-5, parce que son inconscient lui dit, tu t'engages pas beaucoup si tu lis ces 4 ou 5 premières lignes, tandis que si c'est un gros paragraphe de 20 lignes, déjà son inconscient lui dit, tu vas pas rentrer dans cette grosse forêt-là. Alors s'il va au-delà de ces 4 ou 5 premières lignes, ça va mieux, il peut continuer, et vous avez une chance qu'il continue l'article. Elle avait cette idée-là, et c'est ce qui nous motivait toujours, toujours, de dire, il faut le tenir par la main, il faut qu'on lui fasse une promesse dans les 4-5 premières lignes, qu'on l'accroche, et qu'il sache toujours, dans tout l'article, qu'il sache où il en est de l'histoire qu'on lui raconte, et qu'à la fin, la chute, ce qu'on appelait la chute, soit à la fin de l'article, il ait le sentiment qu'on a tenu la promesse qu'on lui a faite dans les 4 ou 5 premières lignes, et qu'il est content, qu'il se dise « Merde, excusez-moi, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai appris quelque chose ».
En parlant de chute, vous me déroulez un tapis rouge. Hein, si elle était tellement formidable, pourquoi l'avez-vous quitté, François Giroux ?
Parce qu'il y a eu des histoires qui ne tenaient pas à elle ni à moi, qui tenaient à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je l'ai quitté pour ça. Enfin, nous sommes partis à plusieurs, avec Claude Imbert, Henri Trinchet, Georges Schuffer, Pierre Billard, etc. Parce que Jean-Jacques Servan-Schreiber voulait utiliser le journal au service de son action politique, et que pour un news magazine, c'est pas possible. Un news magazine, c'est un journal qui raconte l'histoire et qui ne mène pas une action politique. Et donc, quand Jean-Jacques a commencé à vouloir utiliser le journal pour le Parti radical dont il avait pris la direction, les finances du journal servaient au Parti radical. Moi, je me souviens qu'à moi-même, un jour, on avait un déjeuner de rédaction en chef, et on était en avance, elle et moi, je ne sais pas, par hasard, arrivés à ce déjeuner, les autres n'étaient pas encore arrivés. Elle m'a dit, Jacques, si vous partez, je partirai aussi. J'étais un peu sceptique parce que je savais qu'elle aimait Jean-Jacques, si vous voulez. Bon, mais quand on est parti, elle est restée, voilà. Et ça a été un déchirement pour elle, j'imagine, ça a été un déchirement pour nous. Mais elle aimait le journal. C'est l'enfant qu'elle a donné à Jean-Jacques, l'Express. Elle a beaucoup souffert, je crois, de pas pouvoir lui donner un enfant. D'ailleurs, comme il voulait un enfant, il a épousé une autre dame. Et elle a beaucoup souffert ensuite, quand il a revendu l'Express, sans lui dire.
Françoise Giroud, directrice de l'Express, devient secrétaire d'État à la condition féminine. Françoise Giroud assistera demain au Conseil des ministres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En devenant secrétaire d'État à la condition féminine, Françoise Giroud, directrice de l'hebdomadaire L'Express, est la quatrième femme à faire son entrée au gouvernement. Il était 13h exactement lorsque la nouvelle a été rendue officielle. À 58 ans, Françoise Giroud estime, je cite, qu'elle n'a pas été appelée à ce poste pour faire de la décoration. Mais elle veut effectivement tenter d'améliorer le sort des femmes dans notre pays. Écoutez plutôt ses toutes premières impressions.
Mardi 13h, à l'hôtel Matignon, sur le perron, Françoise Giroud apparaît un peu surprise et fort souriante.
Je crois que c'est un poste important dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre. Je crois qu'il attache beaucoup de prix à ce que la condition féminine soit considérée, améliorée, à ce que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes soit recherchée, en tout cas sinon atteinte. Je n'ai pas eu à poser des conditions parce que tout ce qu'on m'a dit me donne à penser que je pourrais exercer cette fonction convenablement.
Et en même temps, Jacques Duquesne, c'est une femme qui s'est battue toute sa vie pour la presse, mais aussi pour les autres femmes, parce que finalement, elle a commencé avec elle, et elle est entrée dans le gouvernement de Giscard à la condition féminine.
Oui, et je crois qu'elle est rentrée dans ce gouvernement parce que c'était pour la condition féminine. Ce n'était pas du tout l'orientation politique de Giscard. Elle n'est d'ailleurs pas votée pour Giscard aux élections de la présidentielle précédente.
C'était une femme de gauche.
C'était une femme de gauche, et elle avait écrit d'ailleurs dans le journal de Gaston Defferre, le Provençal, à l'époque, elle avait écrit qu'elle ne voterait pas pour Giscard. Et il a quand même passé par là-dessus, il lui a demandé d'entrer dans le gouvernement, et elle est devenue donc secrétaire d'État à la condition féminine.
Et elle a réussi à négocier, à continuer à écrire dans la presse.
Oui, oui, mais son vrai métier, c'était le journalisme. Elle n'était pas faite pour la vie politique professionnelle, je dirais. Elle était faite pour participer à la vie politique comme militante, comme combattante, pas comme notable, pas comme ministre. Et elle n'a pas été une formidable ministre, elle a réussi quelques réformes importantes, mais comme ministre de la Culture non plus. Je me souviens de son discours de l'inauguration du Centre Pompidou, elle était mal à l'aise dans ce rôle. Elle a commencé par en disant « Nobles messieurs et gentes dames ». On voyait bien qu'elle se moquait un peu des gens qui étaient là pour inaugurer ce Centre Pompidou, qui était évidemment quelque chose d'important, mais elle voulait donner ça un peu le sentiment que les cérémonies officielles de ce type, c'était pas son genre de beauté, quoi.
Je sais que vous allez me dire que vous les aimez tous, mais bon, il va falloir quand même choisir. Si vous deviez ne garder qu'un éditorial de ce livre.
Je crois que ce sont ces éditos de combat pendant la guerre d'Algérie. Ça, pas un, mais plusieurs. Il y en a sûrement, c'est les meilleurs. C'était un combat politique et moral qui était terrible, dur. Mais on peut dire que nous avons été contents de l'avoir mené. Et elle était une des figures de proue de ce combat-là.
Merci Jacques Duquesne.
Merci à vous.
L'Algérie, le grand combat de Françoise Giroud lui a valu 2 tentatives d'attentat par l'OAS, l'un à son domicile, l'autre au journal L'Express. Mais ni Françoise Giroud ni la rédaction de L'Express n'ont cédé à ces intimidations, comme en témoignent d'ailleurs les éditos du 18 janvier et du 8 février 1962, à retrouver dans le livre de Jacques Duquesne aux éditions L'Express. Françoise Giroud, une journaliste engagée. C'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Sophie Janin. N'hésitez pas à réécouter l'émission sur RFI.fr. Écrivez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.